Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 73. Chevaux à la maison, les meilleurs tips pour gérer le quotidien avec Apolline d'Equi Connexion. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches, pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ce podcast et que je vous donne du coup rendez-vous depuis plus d'un an, tous les mercredis, pour vous partager des connaissances, mais aussi de la prise de recul en tant que cavalier cherchant à devenir propriétaire. Vous trouverez donc dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées, mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action et de construire votre relation rêvée. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Ok, je commence par une confidence. Cet épisode ne devait sortir initialement que la semaine prochaine. Mais comme en ce moment je rencontre pas mal de difficultés techniques, l'enregistrement de l'épisode qui devait sortir aujourd'hui a subitement décidé de foirer et donc je me retrouve sans épisode. Alors c'est pas tout à fait grave parce que Apolline va juste devancer tous les propos de l'épisode de la semaine prochaine. Si j'ai décidé de l'inviter, c'est parce qu'elle est professionnelle du monde équestre et qu'elle vit depuis plus de 2 ans avec ses chevaux chez elle. Finalement, quoi de mieux qu'un témoignage pour découvrir ce qu'est réellement le quotidien de propriétaire à la maison. Apolline s'est prêtée au jeu et a répondu à toutes mes questions pendant environ 1 heure. Avant de te livrer ce témoignage, je voulais te rappeler que si toi aussi tu souhaites devenir propriétaire de ton cheval chez toi, à savoir que tu rêves d'avoir ton cheval à la maison, j'organise une masterclass aux côtés de Claire-Marie d'Equus Paradise le 9 avril prochain. Le but, c'est de balayer ensemble toutes les différentes étapes de la conception d'un projet d'aménagement de prairie quand on souhaite avoir son cheval chez soi. Les red flags, les questions à élucider, la nature du terrain, l'investissement à mettre au départ, les différentes étapes du projet. Enfin, bon, tu l'auras compris. Le but, c'est de te plonger au cœur de la réflexion qui va devoir t'habiter si tu décides de sauter le pas. Je t'en dis pas plus, le lien pour savoir tout sur la masterclass se trouve en description de cet épisode. Il est temps de laisser la parole maintenant à Apolline qui va donc nous partager les 2 dernières années en tant que propriétaire à la maison. Quelle est la réalité et le budget temps d'un propriétaire à la maison? Quels sont les aménagements qu'elle a dû mettre en place au fur et à mesure des années? Quels sont les challenges et les enjeux qu'elle a dû relever? On répond à tout ça juste après le jingle. Salut Apolline.
Salut Fanny.
On rigole parce qu'en fait, on vient de planter 30 minutes d'enregistrement et qu'on est obligé de recommencer. Donc, ce premier bonjour, voilà, les auditeurs sauront tout. Nous sommes transparentes. Nous avons perdu 30 minutes d'enregistrement et nous recommençons. Merci d'être là aujourd'hui avec moi. Donc, Apolline, tu es enseignante d'équitation. Tu es une entreprise qui s'appelle Equi Connexion. On va en parler un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet de notre épisode. On s'est rencontrés l'année dernière aux Équiétudes. On se suit sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Tu montes à cheval depuis que tu es toute petite, tu vas nous en parler, tu as vécu en Espagne. Si aujourd'hui, par contre, moi, je t'ai invitée, donc pour que nos auditeurs suivent le fil, c'est parce que j'aimerais que tu nous partages ton expérience de propriétaire à la maison. Et ça, c'est quelque chose que tu montes sur tes réseaux sociaux, mais bien évidemment, ben, j'aimerais qu'on profite de ton expérience pour qu'on sache en fait tous les dessous, on va dire, de ce que c'est être un propriétaire à la maison. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous parler de tes 2 chevaux, nous dire depuis combien de temps ils sont à la maison avec toi?
Déjà, merci beaucoup de m'accueillir sur ce podcast. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, c'est un podcast que moi, j'écoute super régulièrement, que je partage même avec mes cavalières quand elles ont des problématiques que tu abordes justement dans ce podcast. Donc, moi, je m'appelle Apolline Oubradou, je suis enseignante d'équitation relationnelle. Donc, mon objectif, c'est de former les humains pour les aider à développer leur potentiel, pour transformer leur relation avec leur partenaire équin. Donc, je viens en fait accompagner les objectifs individuels et je me centre vraiment sur l'humain pour qu'ensuite on puisse voir des changements chez le cheval. Mais avant ça, je suis propriétaire de 2 chevaux. Donc je suis propriétaire d'Itac, qui est un petit ibérique de 13 ans, depuis maintenant 8 ans. Et j'ai Jasmine Denso, qui est une selle française qui va avoir 5 ans cette année, qui a rejoint l'équipe il y a 2 ans et demi. Alors, Itak, il est arrivé à la maison dans un contexte un peu spécifique. Ça a été un cas d'urgence, mais en fait, il est arrivé à la maison lors du confinement. On a eu l'annonce du confinement début de semaine en mars 2020. Et le samedi, en fait, il était déjà à la maison en 24 heures. On a préparé son arrivée. Mais officiellement, donc parce qu'il m'a rejoint en Normandie pendant 1 an, donc officiellement, depuis l'arrivée de Moon, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'ils sont vraiment à la maison tout le temps.
J'ai une première question. Donc, tu nous as parlé d'une arrivée en urgence suite, on va dire, au confinement. Est-ce que tu peux très rapidement présenter les différents modes d'hébergement ou de détention qu'a connu Itak? Puisque donc, c'est ton premier cheval que tu as eu, il me semble, en Espagne, avant que tu arrives en France. Donc, tu as eu plusieurs années avec lui, finalement, avant que ce soit ton cheval à la maison, ce qui n'est pas le cas de Moon, qui t'a tout de suite rejoint, en fait, dès ses premières années, bah, en fait, chez toi. C'est ça?
Oui, alors en fait, Itak, je l'ai eu quand j'étais jeune, quand j'avais 13 ans. Donc à l'époque, effectivement, comme tu le dis, moi je suis cavalière depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 3 ans. Et comme toutes les cavalières, j'ai demandé à chaque Noël d'avoir un cheval. Et puis un beau jour en 2016, donc c'est arrivé, Itak m'a rejoint par la suite. Donc ça était vraiment, pour le coup, j'en parle à chaque fois, mais un coup de foudre avec Itak. Sauf qu'à l'époque, quand je l'ai acheté, il avait 5 ans, il avait déjà changé de propriétaire 6 fois. En Espagne, là-bas, dans les élevages, les chevaux bougent beaucoup, en fait, avant leurs 5 ans, avant de trouver, on va dire, leur propriétaire pour la vie quand ils ont cette chance-là. Donc à l'époque, il était hébergé en boxe. Quand il est arrivé donc à mes côtés, il a été en paddock paradise pendant un temps. Ensuite, il est passé en paddock individuel avec contact avec le congénère en direct. Quand on est remonté en France, il a été pendant 1 an en boxe la nuit, puis en sortie quotidienne avec un petit troupeau de 3-4 chevaux en extérieur tous les jours. Il a été ensuite en boxe avec sortie individuelle pendant encore 1 an. Puis on a eu le contexte donc du Covid où il a débarqué à la maison. Il est resté pendant à peu près 1 an à la maison tout seul. Ensuite, je l'ai déplacé avec moi pour mes études en Normandie. Donc, j'ai fait des études pour approfondir mes connaissances en débourrage des jeunes chevaux en équitation éthologique. Et je suis partie dans une écurie en Normandie avec un mode d'hébergement donc en grand cheptel. Donc là, il s'est retrouvé en fait avec 30 chevaux sortis la journée dans un grand, grand espace. Et il était en stabulation à 3-4 par stabulation la nuit. Donc ça, c'était un mode de vie qui lui a pas du tout convenu pour le coup. Pendant 1 an ensuite, il a été en arrêt parce que, bref, je l'ai récupéré avec des coliques de stress. Il a fait une infection carabinée du pied avec lésion de la phalange du pied, donc de la troisième phalange. Après, il est revenu à la maison donc beaucoup plus tôt que moi et il est revenu donc avec Moon. Et c'est vrai que, bah, je t'en parlais aussi tout à l'heure, mais c'est un grand changement de gestion en fait entre un cheval qui a connu énormément de modes d'hébergement, donc Itak, qui a vraiment vécu de tout. Donc du box à la sortie individuelle, au cheptel vraiment énorme. Et la différence avec Moon, qui elle a été dans son élevage jusqu'à ses 2 ans et demi, avec les quelques juments de l'élevage, dans des prairies immenses en Normandie, et qui s'est retrouvée à la maison avec un mode de vie qui n'était pas très différent, vu qu'elle s'est retrouvée avec Itak, donc dans un petit groupe sur à peu près 1 hectare. C'est super important aussi, je pense, de prendre en compte, et on va en parler tout au long de l'épisode, mais de prendre en compte que oui, on a aujourd'hui un idéal de gestion. On a cet idéal du cheval qui est en extérieur toute la journée et la nuit également, qui est en troupeau, qui a du foie à volonté, etc. Mais en fait, finalement, ça correspond pas à tous les chevaux. Oui, il faut prendre en compte que les besoins essentiels, donc les 3F, doivent être satisfaits. T'en parlais d'ailleurs dans un de tes épisodes du podcast. Mais il n'empêche que il faut être en capacité finalement de l'adapter à chaque cheval individuellement. Et je pense qu'il faut aussi avoir des chevaux qui sont en capacité de se retrouver dans différents environnements et dans différents modèles de gestion, ne serait-ce que le box, habituer les chevaux au box. T'en parlais justement, je pense que ça a été ton cas avec Iggy, où t'as dû la mettre en box pendant un temps. Voilà, être en capacité finalement de confronter un peu nos chevaux à différents modes de gestion pour savoir individuellement qu'est-ce qui leur correspond en fait.
Yes, on va en reparler dans le détail, effectivement, dans les apprentissages que tu as eu aussi, finalement, en gérant tes chevaux à la maison. Avant de rentrer dans ce détail-là, je voudrais revenir en fait un petit peu sur le fantasme que certains cavaliers, certaines cavalières peuvent avoir en pensant que, en ayant son cheval à la maison, finalement, on peut vraiment profiter pleinement de lui toute la journée et que c'est ce qui va venir renforcer, nourrir cette relation que nous, on recherche avec le cheval et dans lequel on projette parfois justement un idéal qui n'est pas tout à fait ce qui va se passer une fois qu'on fait le choix d'avoir son cheval à la maison. Cette relation de partenaire qui se rapproche un petit peu de l'animal de compagnie, c'est ce que nous, les cavaliers, on va dire, on aimerait avoir, ce au quoi on aspire parfois. C'est difficile finalement d'être responsable d'un cheval et en fait de pas l'avoir à nos côtés une grande partie du temps. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude avec les autres animaux dits de compagnie, typiquement le chien, même le poisson rouge. Bon, ils vivent avec nous et c'est facile. Notre cheval, pour la plupart du temps, il est donc dans un endroit différent et forcément, cette distance nous donne la sensation que s'il était à nos côtés, on pourrait passer beaucoup plus de temps pour mieux le connaître, le voir évoluer au quotidien. On pourrait profiter en fait de tous ces instants glanés dans la journée pour pouvoir venir renforcer cette fameuse relation. Et la première grosse question en fait que moi j'aimerais te poser, Apolline, c'est comment tu arrives à gérer ? Parce qu'il y a forcément une routine qui se met en place quand on a son cheval à la maison. La réalité, c'est que on peut pas être 24 heures sur 24 avec son cheval et son cheval peut pas être 24 heures sur 24 avec nous. Donc même si on le voit par la fenêtre, est-ce que on arrive à se partager entre guillemets efficacement entre le temps qu'on veut pour observer, le temps qu'on doit en fait investir pour gérer la pâture, gérer l'environnement, le temps qu'on doit passer aussi à organiser, parce que ben on va en parler, mais c'est pas parce qu'on a juste un hectare par cheval, et donc j'avais fait un épisode là-dessus qui est sorti le 27 février, que en fait on a toutes les ressources à disposition pour un même cheval. Ça dépend beaucoup de l'endroit où on habite. Donc du coup, bah il y a quand même cette notion d'organisation de l'espace, organisation bah, pour être sûr d'avoir les bonnes ressources au bon moment. Et puis bah le temps en fait réel et concret où on va pouvoir profiter de son cheval, que ce soit bah pour un pansage, pour une séance de travail, pour une balade, etc., etc. Combien de temps t'as mis, toi, pour trouver le bon ratio ? Est-ce qu'il y en a un qui existe vraiment ? Est-ce que, justement, c'est pas quelque chose qui doit s'adapter en fonction des chevaux ? Et comment, toi, tu gères concrètement ton temps au quotidien, tes routines, sachant qu'en plus, tu as deux chevaux, donc ça veut dire que... Enfin, c'est bien pour leurs besoins à eux, mais ça veut dire que pour l'humain, bah, il y a un peu... C'est pas un fois deux, mais en tout cas, il y a plus de temps à y passer.
Alors déjà, j'aimerais revenir sur un point dont tu parles et qui est super important. C'est un peu cet idéal qu'une fois qu'on a les chevaux à la maison, on va passer tout notre temps avec eux. Et en réalité, alors oui, on passe forcément plus de temps avec eux, mais quand on prend en compte notre vie de cavalière, si aujourd'hui déjà, on n'est pas tout le temps aux écuries, si on n'est pas tout le temps à la pension pour passer notre temps avec eux, c'est aussi finalement parce qu'on a un peu notre vie d'humain à côté. Et c'est normal. Et oui, ils ont leur vie de chevaux, dont il faut aussi qu'ils puissent profiter pleinement. Et c'est cette notion un peu de juste équilibre qu'il faut d'ailleurs trouver quand on a nos chevaux à la maison, c'est de se dire quel temps finalement je dédie vraiment à mes chevaux, je passe avec eux, et comme tu dis, quel est mon budget temps ? Parce que le budget temps d'une cavalière qui et d'une propriétaire surtout qui a son cheval en écurie et d'une propriétaire qui a ses chevaux à la maison, il change complètement. Souvent, quand on regarde le budget temps d'une propriétaire qui a son cheval en écurie, bon ben, quand on y va, souvent on va faire des soins, on discute aussi un petit peu avec les copines de l'écurie, on va faire nos séances, on va profiter vraiment pleinement de notre cheval. Parfois, ça nous arrive, je sais qu'il y a certaines écuries qui proposent ça, qui sont un petit peu en demi-autogestion, on va peut-être s'occuper un petit peu de ramasser les crottins, d'aider en tout cas à la gestion générale de l'écurie. Mais on va dire qu'on a quand même un 80, voire 90% du temps où on profite avec nos chevaux. Quand on a nos chevaux à la maison, ce budget temps, il change parce que tout ce travail que le gérant ou la gérante de pension fait pour le bien-être de nos chevaux, c'est à nous de le faire. Donc mon budget temps aujourd'hui, et il continue à évoluer, on va dire que je passe quand même aujourd'hui à peu près 60, voire 70% de mon temps, en fait, à faire de la gestion. Qu'est-ce qui rentre dans la gestion ? Bah déjà, il y a, on va dire, la gestion de tous les jours. Donc pour moi, la gestion, et je parlerai un petit peu justement de ce que j'ai mis en place, mais déjà, la plus grosse gestion, la gestion quotidienne, c'est la gestion de l'alimentation. Aujourd'hui, mes chevaux sont en filet à foin, donc ça veut dire que tous les matins, tous les soirs, je remplis et j'accroche les filets à foin. Ils ont également leur ration le matin. Donc ça, c'est une partie de la gestion. On a également la gestion des crottins, on a la gestion des roulements de pré. Ça a été un choix. Aujourd'hui, j'ai décidé de fermer une partie de l'espace. Donc oui, ils sont sur un hectare, mais finalement, ils n'ont pas accès à cet hectare tout le temps. Et parce que j'ai hâte d'écouter ton podcast sur un cheval, un hectare, parce qu'en réalité, c'est pas forcément vrai. Ça va dépendre aussi de la qualité du sol, ça va dépendre de son entretien, ça va dépendre de sa gestion. Aujourd'hui, un hectare, moi, c'est pas suffisant pour mes deux chevaux, donc je suis obligée de fermer une partie. Je travaille un petit peu en équipiste, entre guillemets, des équipistes en DII, on va dire, avec mes chevaux. Donc, il y a une partie, justement, de cette gestion, finalement, des pâtures, de l'entretien. Donc ça, c'est quand même un gros morceau. On a aussi une partie de réflexion. La gestion, quand on a des chevaux à la maison, on est en amélioration continue tout le temps. Quand je regarde il y a 2 ans et demi, j'ai pas du tout la même gestion aujourd'hui que celle que j'avais avant. J'ai même plus la même gestion qu'il y a 3 mois, vu qu'il y a 3 mois, ils étaient en foin à volonté, et que finalement, j'ai dû réadapter. Parce que, bah, comme je l'ai expliqué, Ithaque, petit ibérique, pas du tout la même chose qu'un sel français. Il est habitué normalement à des sols avec de l'herbe très pauvre. Et alors, quand il se retrouve dans le nord avec de l'herbe ultra verte et du bon foin du nord, bah, en fait, il a tendance à avoir beaucoup de surpoids. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et que j'ai dû tout de suite mettre des solutions en place. Donc j'en ai testé plusieurs. Il y a une grosse partie aussi de réflexion et donc de charge mentale qui vient se rajouter. Je m'endors, je pense à mes chevaux, je me réveille, je pense à mes chevaux. C'est d'ailleurs ma routine un petit peu du matin et du soir. Tous les matins, j'ai 30 minutes où je m'occupe d'eux et de leur gestion. Tous les soirs, entre 30 minutes à 1h30. Et minimum, on parle que de la gestion, on parle pas de si je fais une séance, si je décide d'aller passer du temps avec eux. Donc ça, c'est quand même une grosse, grosse partie du budget temps. Vérifier qu'ils ont tout pour que leur bien-être soit assuré et pour qu'ils puissent vivre leur vie de cheval, justement. Donc qu'ils puissent s'alimenter, qu'ils puissent boire, qu'ils puissent se déplacer en sécurité quand je ne suis pas là. Et après, effectivement, on a une partie du budget temps où on profite, donc que ce soit des balades, que ce soit des pansages, que ce soit des séances également, du jeu. Moi, j'adore aller jouer avec mes chevaux dans le pré, et c'est vrai que ça, on en profite. Mais c'est vrai que cette partie-là, et c'est important de le préciser, elle vient après la gestion. Je peux pas aller profiter, on va dire, de mes chevaux si j'ai pas mis tout en place déjà pour qu'ils puissent, eux, avoir leur vie de cheval. Et donc, c'est ça qui change un petit peu dans le mindset et dans la gestion quotidienne, c'est de se dire je peux profiter de mon cheval que si j'ai déjà rempli mes 60% de mon budget temps de gestion. Et il y a une dernière partie, donc moi je suis enseignante et mes chevaux, donc il y a déjà une grande partie qui est le fait que moi je reste un petit peu au niveau, mais en fait que je continue tout simplement à pratiquer, à évoluer, à être face en fait à mon évolution et au développement de mon propre potentiel humain. Donc c'est important pour moi de tout simplement d'avoir des séances avec mes chevaux où moi je travaille, mais il faut savoir que j'ai également donc des séminaires, des stages où mes deux chevaux, donc Ithaque et Moon, en font partie, sont en contact avec les gens qui viennent se former auprès de moi. Et donc il faut que eux aussi en fait continuent à évoluer, continuent à rester en forme physique, en forme mentale, en forme émotionnelle. Donc on a une partie un petit peu plus sérieuse de travail où des fois c'est à prendre en compte. Ben oui, on aimerait peut-être ce jour-là juste aller profiter, aller faire une balade. Mais la réalité, c'est que bah là, j'ai des séminaires dans un mois. Bon, bah, on va peut-être prioriser un petit peu plus le travail des séances qui sont en lien avec ça. Donc, c'est un petit peu une adaptation quotidienne. On parlait de ratio et ça se travaille et ça s'améliore aussi au fur et à mesure. Moi, aujourd'hui, j'ai les lundis et mardis où je sais très bien que je suis partie de chez moi de 7h30 jusqu'à 19h30, où je ne rentre pas. J'ai 2 week-ends par mois où je suis en tournée de cours. Donc, même chose, je pars vers 7h30, je rentre vers 20h30, parfois 21h. Donc, j'ai 2 week-ends par mois également qui sautent. Le reste de la semaine, j'essaye d'adapter mes horaires pour pouvoir au moins finir plus tôt ou commencer plus tard pour pouvoir profiter d'eux. Donc ça, c'est à prendre en compte que c'est un temps en plus. Quand je choisis d'aller boire un verre en after work après une journée de travail, bon bah je prends en compte que quand je vais rentrer, je vais quand même avoir cette partie de gestion à assumer. Donc c'est une autre façon en fait, tout simplement, de gérer son agenda. Des fois, on anticipe, on crée de nouvelles solutions. Moi, je sais que je pars parfois. J'en parlerai après parce que je suis du genre à m'étaler très rapidement. Mais donc, je vais revenir juste sur le ratio avant de parler un petit peu de la gestion, par exemple, en vacances. Mais en tout cas, quand on parle de ratio normal, habituel, je dirais que je passe 70% de mon temps à faire de la gestion, 10-15% à vraiment profiter et le reste du temps à essayer de faire des séances. J'essaye d'en avoir minimum 2 à 3 par semaine pour chaque cheval. Bon, quand on fait des balades en dextre pour aller travailler le physique, c'est bien parce que ça fait une séance, ça fait deux pour le prix d'un. Mais voilà, c'est toute une gestion qui est un petit peu différente. C'est un ratio qui s'adapte également à mon rythme, qui s'adapte à ce qui me va. C'est pas le même en hiver et en été, par exemple. Faut savoir que l'hiver, c'est toujours la période un peu difficile parce qu'il fait vite noir. On commence la gestion avec la lampe frontale le matin. On finit le soir, on a encore la lampe frontale parce qu'on les voit presque pas à la lumière du jour. En tout cas, moi, avec mon rythme de travail. L'été, c'est beaucoup plus cool. Les journées sont beaucoup plus longues. Je peux facilement avoir de la lumière jusqu'à 22h30, 23h. Bon, dans ces cas-là, j'avoue, je profite beaucoup plus. Je vais faire des séances plus longues. Je vais aller beaucoup plus les observer dans le pré, en profiter avec eux, faire des moments gratouits. Il faut prendre en compte que les saisons vont aussi influencer tout ce rythme-là. Mais c'est vrai que cette routine, elle s'adapte, elle s'améliore toujours et elle va changer au fur et à mesure et elle est complètement individuelle. C'est-à-dire que j'ai des cavalières qui ont également leurs chevaux à la maison et si on comparait nos routines, c'est pas du tout les mêmes façons de faire. Il y a des choses qui reviennent, mais finalement, on a toutes des rythmes différents. Et je pense que ce qui est très important quand on devient propriétaire à la maison, c'est de tester. C'est de tester plein de choses, de tester plein de routines différentes et de se dire, OK, ça, ça marche bien pour moi, ça fonctionne bien, là, je suis efficace. Moi, par exemple, je sais que faire les filets à foin le matin, c'est une catastrophe. Je suis une lève tard et alors quand je dois me lever à 6h du matin pour aller faire les filets à foin, je prends énormément de temps, je suis pas du tout concentrée. En plus, moi, je les pèse, etc. Donc, ça prend plus de temps. Donc non, je fais vraiment tous mes filets à foin, j'en ai acheté plus. Comme ça, je sais que je les fais tous à un rythme de tous les deux jours. Je fais tous mes filets à foin, je prends vraiment une heure pour faire tous mes filets. Et comme ça, après, j'ai juste à les accrocher. Je sais que ça peut me correspondre, ça peut ne pas correspondre à quelqu'un d'autre. Donc l'idée, c'est vraiment de tester des routines différentes, de se dire, OK, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça c'est adapté, ça faut que je le change, et trouver un petit peu son propre rythme. Et donc, par rapport à la gestion, un petit peu en vacances, je vais tout de suite venir dessus parce que je l'ai en tête maintenant, mais c'est vrai que quand je pars un week-end, par exemple, je sais que c'est une gestion différente où je vais anticiper. Je vais aller accrocher tous les filets à foin, par exemple, avant mon week-end. Donc là, je sais que je vais prendre plus de temps. Donc en fait, c'est juste une question de le planifier en fait dans son agenda. Comme on planifie nos allers-retours aux écuries pour aller profiter de nos chevaux, bah là on vient juste rajouter dans notre agenda la planification justement de toute cette gestion-là.
Ça m'amène tout de suite à une autre question. Ce que je retiens, c'est que finalement, entre le moment où on commence et les années qui passent, on va avoir testé plein de scénarios différents. Ces scénarios correspondent forcément aussi à des routines différentes et à des besoins individuels et des besoins humains différents. Néanmoins, il y a quand même un point central, c'est que la majorité du budget temps est passé sur de la gestion et de l'organisation. Ce qui fait que pour un cavalier qui, par exemple, aujourd'hui passe 6 heures par semaine à aller voir son cheval, bon, c'est pas assez, mais on va dire en moyenne, voilà, c'est une moyenne. Je ne sais pas si quand on est propriétaire, on peut passer juste 6 heures par semaine. Imaginons, c'est facile à calculer. Sur ces 6 heures-là, bah, si aujourd'hui, ça représente 60% du temps, ça veut dire qu'on a pratiquement 4 heures sur les 6 qu'on a déjà habituellement qui sont passées à faire de la gestion. Et du coup, ça a forcément une incidence sur son agenda à soi, parce qu'à moins d'être capable de démultiplier le temps, il va falloir, en tout cas, trouver des manières de faire pour pouvoir satisfaire ses envies et satisfaire les besoins. Et ça, du coup, c'est un premier point hyper, je trouve, important à prendre en compte. C'est si on veut devenir propriétaire à la maison, est-ce qu'on est capable ou pas de donner plus de temps que ce qu'on donne aujourd'hui à nos chevaux? Parce que finalement, c'est pas parce qu'ils sont à la maison qu'on réduit le temps.
Alors justement, en fait, ce qui est bien, entre guillemets, c'est que ce temps qu'on passe à la gestion, on le passe également souvent avec nos chevaux. Quand je vais ramasser les crottins, quand je vais accrocher les fils à foin, je profite indirectement de mes chevaux. Souvent parce que d'ailleurs, j'ai Moon, qui est très pot de colle, et que j'ai souvent posé sur mon épaule pendant que je ramasse les crottins. Donc on en profite quand même, mais effectivement, c'est à prendre en compte, c'est que de un, on peut pas démultiplier nos heures. On peut pas non plus faire ça entre minuit et 6 heures du matin. Honnêtement, j'ai testé, ça ne fonctionne pas. Donc à un moment, oui, c'est nécessaire en fait, avant de prendre la décision d'avoir des chevaux à la maison, de se poser la question, est-ce que je vais véritablement avoir le temps qu'il faut à y consacrer? Parce qu'on parle de 70% du temps, mais en fait, ces 70% du temps, c'est des heures qu'on est obligé de toute façon de dédier. Donc, c'est-à-dire que c'est 70% du temps que je décide de dédier à mes chevaux. Mais si je décidais de juste dédier du temps à la gestion, on parle quand même de minimum 1h30 par jour. En tout cas, pour le modèle que moi, j'ai réussi à mettre en place et où j'ai vraiment réussi à optimiser, on va dire, un maximum possible toute la gestion quotidienne. De un, il y a ce côté prendre en compte qu'il va falloir prendre le temps, organiser ce temps dans notre semaine et également prendre en compte qu'il va falloir l'organiser en pensant à notre propre bien-être humain. Je vais le partager du coup en toute transparence, mais j'ai eu une période cette année qui a été très très remplie au niveau du travail et je me suis retrouvée en fait à rentrer à des heures pas possibles, à partir hyper tôt le matin et à devoir quand même gérer mes chevaux. Et en fait, je me suis retrouvée presque en burn-out. J'avais même plus envie d'aller voir mes chevaux à un moment parce que j'étais juste épuisée et qu'à un moment, aller faire les filets à foin à 23h le soir, me retrouver avec des nuits hyper courtes parce qu'il fallait que je me lève plus tôt le lendemain matin, c'était ultra difficile. Et donc, je pense que c'est aussi à prendre en compte, c'est oui, il va falloir mettre ce temps dans son agenda. Et ça va être génial parce qu'on va profiter d'une autre façon de nos chevaux parce qu'on les découvre hein, finalement dans ces temps aussi de gestion. On découvre à quel rythme ils mangent, comment ils mangent, quel filet à foin leur vont mieux, quelle partie du foin ils préfèrent. Là, par exemple, j'ai découvert que mes chevaux, si je leur mettais de la paille et du foin, alors qu'il y a certains chevaux qui adorent la paille, les miens n'en veulent absolument pas. Donc, on découvre plein de choses sur nos chevaux, mais il faut prendre en compte qu'on va mettre ce temps dans notre agenda et qu'il faut le mettre en place de façon à respecter également notre bien-être humain, donc c'est-à-dire à dormir suffisamment, à pouvoir se reposer aussi, à pouvoir se nourrir correctement. Enfin voilà, c'est pas je vais mettre ce temps de gestion là où je peux et où je vais réduire certaines choses de mon quotidien. C'est pas possible. Donc il faut regarder son quotidien, l'analyser et se dire ok, où est-ce que je vais pouvoir être efficace et où est-ce que je vais pouvoir prendre ce temps pour mes chevaux.
Tu nous l'as un peu spoilé ou teasé en intro. Toi, t'as pris la décision finalement de prendre tes chevaux à la maison vraiment un peu sur un coup de tête avec l'effet panique du confinement. Je dis pas que c'était pas bien. Je dis juste que du coup, t'as eu ce moment où t'as pas pu vraiment beaucoup réfléchir au projet voilà, directement. Est-ce que t'as eu des craintes ou des appréhensions à ce moment-là? Est-ce que tu t'es dit, OK, je fais ça, mais par exemple, bah, Ita qui va être tout seul, est-ce que ça va le faire, par exemple? Ou pas du tout? Clairement, à ce moment-là, est-ce que tu te souviens, c'était quoi ta plus grosse crainte, ta plus grosse appréhension? Et finalement, est-ce que c'est ce qui s'est révélé être effectivement des challenges, tu vois, à relever, entre guillemets? Ou est-ce que les vrais enjeux étaient ailleurs?
Déjà, je conseille pas de prendre la décision sur un coup de tête. Alors, je ne regrette absolument pas, et ça a été absolument magique, on va dire, d'accueillir Itac pendant le confinement. Mais je pense que c'est vraiment une décision qui se doit d'être réfléchie et qui a été beaucoup plus réfléchie quand je suis revenue justement de Normandie, où là j'ai vraiment eu Ita et Moon à la maison et ça a été un choix. Je dirais que quand il y a eu le moment du confinement, c'était un choix, mais un peu un choix contraint. Je pense que c'est pas forcément la bonne tournure, on va dire. J'ai eu la chance que le confinement a mis tout au ralenti, donc j'ai pu vraiment en profiter. Mais je pense que ce choix contraint un peu dans l'urgence rend l'adaptation beaucoup plus compliquée. Je pense que je suis passée par plusieurs phases. Ma plus grosse crainte, effectivement, à l'époque, c'était qu'Itac se retrouve tout seul. Mais en même temps, il était déjà en paddock individuel. Donc, c'est pas comme si je le sortais d'un troupeau pour le mettre tout seul. Mais c'était une crainte parce que pour moi, c'était important de respecter au plus près tous ses besoins essentiels. Et je savais que le fait qu'il n'ait bah, justement pas d'autres chevaux, pas d'autres copains, ça allait avoir une influence. Il se trouve qu'il l'a très bien vécu. Alors, je ne pense pas qu'il faut...
faire une généralité.
Exactement, et qu'il ne faut pas prioriser des chevaux tout seul. Vraiment pas. Je dirais juste que sur le coup, entre être en box et être chez moi tout seul, bah être chez moi tout seul, c'était la meilleure des options, sur le coup. Maintenant, je le vois, il est quand même beaucoup plus équilibré depuis qu'il y a Moon. Ça crée beaucoup plus de mouvement, ça crée une dynamique complètement différente. Et vraiment, si on peut réussir à avoir les 3F, il faut essayer d'avoir les 3F, ça doit être un objectif. Donc ça, c'était une de mes grosses craintes. Mais je pense que c'est un peu le piège, c'est que j'ai commencé à avoir Itac à la maison sans avoir vraiment toutes les connaissances qu'il fallait. Je savais pas, en fait, combien de foin un cheval mange par jour. Est-ce qu'il faut donner des rations ou pas? Est-ce que il faut faire attention à la mise à l'herbe? Est-ce qu'ils ont absolument besoin d'abri? Même au niveau de la loi, comment ça se passe? J'avais aucune connaissance, j'avais des connaissances de base, mais j'avais pas plus de connaissances que ça. Et en fait, je suis partie dans une idée un peu de oui, mais comme j'ai pris une bonne décision pour mon cheval, c'est que c'est bien. Et donc, en fait, pendant plusieurs mois, je me suis pas trop remise en question. Et je pense que c'est là le vrai piège. Et plus que, je pense qu'avoir des craintes, c'est là, c'est positif dans le sens où ça va nous pousser à nous remettre en question et à nous poser les vraies questions de fond, de nous dire « Ok, à quel moment je me challenge et qu'est-ce que je vais vraiment changer dans ce que je propose aujourd'hui à mon cheval pour améliorer la gestion ?» Le vrai, vrai piège, c'est de se retrouver dans une situation où on se dit « Non, mais j'ai pris une bonne décision et en réalité, je sais ce que je fais. » Alors qu'en réalité, je ne savais pas ce que je faisais du tout. Arrivé à l'automne, je n'ai pas complémenté avec du foin parce qu'un hectare, un cheval, donc normalement, il a ce qu'il faut sur place. Non. Donc en fait, il s'est retrouvé à maigrir. On a dû vraiment complémenter en vitesse, sauf que je ne savais pas combien de foin il fallait donner. Voilà, donc ça m'a poussé, on va dire, à acquérir des connaissances très, très rapidement. Mais je pense qu'il faut plutôt avoir des craintes et plutôt aborder toutes ces craintes et se dire « Ok, je les pose sur la table. Quelles sont toutes les peurs que j'ai? Pourquoi j'ai ces doutes-là? Et qu'est-ce que je peux mettre en face? Est-ce qu'elles sont fondées? Est-ce que je peux pas me renseigner pour savoir s'il y a des solutions qui existent déjà? Quelles sont toutes les solutions? Comment je vais pouvoir les tester ?» Mais je préfère finalement avoir des craintes que ne pas en avoir du tout et être convaincue que de toute façon, dans le meilleur des mondes, et tout se passe au mieux. Et donc finalement, avoir ce biais de perception qui nous convainc que ça va et donc rater des signaux de nos chevaux ça a été le cas avec Itak. J'ai raté à un moment des signaux de mal-être liés à l'alimentation où il n'avait pas assez en fait et donc il a perdu de l'état à cette époque-là et j'ai eu de la chance de me retrouver avec entourée de personnes qui ont pu également m'apporter des connaissances. Je pense à une petite sellerie que j'ai à côté de chez moi, qui est gérée par des agriculteurs et qui m'ont vraiment aidée finalement dans la gestion, à me dire « Ok, là, il faut peut-être que tu donnes autant de foin, il faut peut-être que tu donnes ça comme ration. » Je me suis formée aussi beaucoup, j'ai cherché des formations en ligne, j'ai écouté des vidéos, j'ai regardé, j'ai lu, acquis avec plein de connaissances, mais j'ai eu quand même cette période où je me suis dit « Tout va bien et juste on profite. » Et non, il vaut mieux poser nos craintes sur la table.
C'est hyper intéressant parce que ça montre que devenir propriétaire à la maison, c'est finalement avoir tout un tas de domaines dans lesquels il va falloir se forger un avis et se forger une expérience qu'on ne peut pas finalement réellement avoir tant qu'on n'y a pas été confronté. C'est-à-dire que même en étant propriétaire en pension, moi par exemple, je me forme sur certains sujets et j'attends pas que la pension me disent il faut faire comme ci ou comme ça pour avoir un avis par exemple sur l'alimentation d'Iggy parce que bah très rapidement moi dans les premiers mois elle a perdu du poids donc ça a été tout de suite une bête noire même en fait en étant en pension et parce que finalement elle avait pas assez accès aux ressources parce que c'était la petite dernière du pré et du coup clairement elle était pas prioritaire au râtelier. C'est aussi facile de pouvoir passer beaucoup de temps loin de toutes ces questions et ces prérogatives quand on est simple propriétaire en pension. Parce qu'en fonction de la pension, du mode de détention de notre animal, dans cette pension, c'est-à-dire que ce soit juste un pré ou un pré-box ou un pré-paddock, en fonction également du nombre de services que procure ou pas cette pension, on n'est pas obligé, entre guillemets, de mettre la main à la pâte ou d'avoir à réfléchir à tous ces aspects. Et après, donc quand je parle de tous ces aspects, c'est l'hygiène de base, c'est-à-dire qu'il y a des pensions, bon, même avec un cheval en pré-paddock, vous ne touchez pas un crottin de la semaine parce que c'est inclus dans le prix et du coup, vous n'avez aucune idée de en combien de temps votre cheval transforme son box en un truc dégoûtant, par exemple. Donc, ça va vraiment dépendre de ça. Et après, il y a une nuance entre le fait de croire qu'on sait parce qu'on a lu des choses. Et ça, c'est très bien d'apprendre, de lire des bouquins, de se faire un avis. C'est-à-dire que moi, je sais très bien, en théorie, ce que Iggy doit manger comme nitrage de foin, ou en tout cas de fourrage, ok, pour son bien-être. Mais après, il y a la réalité. Et la réalité qui est liée avec l'expérience de devoir le gérer soi-même. Et ça, c'est encore, je trouve, un step d'après. C'est-à-dire qu'on peut avoir le sentiment d'être un propriétaire ultra aguerri parce que on se renseigne, on fait des webinaires, on est abonné à Blooming Riders. Enfin, c'est super, c'est pas du tout une critique, c'est super parce que du coup, justement, on apprend et on a cette soif d'apprendre. Mais il y a quand même ce facteur d'expérience qui, pour moi, est une brique supplémentaire qui vient se rajouter, qui est-ce que la théorie fonctionne par rapport à la singularité de mon cheval à l'instant T et sur une certaine temporalité? Et ça, finalement, ben, avec le niveau d'obligations supplémentaires quand on est propriétaire à la maison, ben, y a forcément des surprises. On ne peut pas tomber pile poil dans ce qu'on avait imaginé. Enfin, ça me semble hyper difficile de pouvoir effectivement tout planifier, tout organiser, tout imaginer et d'arriver exactement au bon résultat, étant donné que bah, y a toute une partie de cette gestion quotidienne où on a des zones aveugles, en fait, tant qu'on n'est pas confronté à ça.
La différence entre la pratique et la théorie est souvent flagrante. Comme tu le dis, on part un petit peu dans ce côté je me forme et je connais plein de choses, et ne serait-ce que pour le foin, on dit souvent que c'est aller entre 2 et 2,8 kilos de foin pour 100 kilos de cheval. La réalité est différente, c'est-à-dire que ça va dépendre de la qualité de ton foin, ça va dépendre de si les fibres sont longues ou sont courtes, ça va dépendre de la richesse, de à quel moment il a été coupé, de combien de temps il a séché, est-ce que c'est de l'enrubanné, est-ce que c'est du foin sec. Enfin, tu vois, tout ça bêtement, t'as beau avoir lu 10 000 choses à ce sujet-là, ben en réalité, c'est que quand il est dans l'estomac de tes chevaux et que tu vois s'ils perdent ou ils prennent ou qu'ils stagnent, que tu peux savoir comment tu l'adaptes et est-ce que tu mets 2 kilos ou 2,8 kilos pour ton cheval. Entre ce que tu lis et finalement ce qui s'applique à la fin, il y a toujours une grande différence. Parfois, il n'y en a pas et on est content. On se dit « Ok, super, ben finalement, c'est que c'était ça. » Et parfois, en fait, il n'y en a pas pour un cheval, puis il y en a pour l'autre. Et ça, pareil. Faut adapter. Et quand on a 2 chevaux à la maison, je pense même pas à ceux qui en ont 5, 6, 7 à gérer, et je pense aux gérants de pension qui en gèrent énormément plus. Il faut toujours prendre en compte qu'on essaye d'individualiser au maximum par cheval, et que c'est ça la tâche la plus complexe finalement. C'est on a nos connaissances, mais on a nos connaissances pour un cheval idéal, basique. Qu'en est-il du Shetland? Qu'en est-il du cheval de sport? Qu'en est-il de l'ibérique? Et rien que entre ma jument de sport et mon petit ibérique, ça a absolument rien à voir, en fait, dans la façon dont je dois le gérer. Et pourtant, il faut bien que je trouve une solution, pour les deux, en même temps, qui correspond. Et c'est ça qui est hyper difficile. Je pense aussi, je reviens un peu sur le côté, dont tu parlais, d'être propriétaire dans une écurie. Il faut prendre en compte aussi que dans une écurie, on est materné. Et parfois, on a peu de choix pour nos chevaux. Je connais beaucoup d'écuries où c'est la même ration pour tous les chevaux, et t'as le droit de rajouter 1 ou 2 compléments, mais ça va être la même base, parce que bah, ils ont pas de quoi fournir une alimentation différente, une ration différente pour tous les chevaux. C'est materné dans le sens où on prend les décisions à ta place pour ton cheval le plus souvent, et que même si tu te formes et tu peux en discuter avec le gérant, et t'as des gens qui sont très ouverts, et c'est super chouette quand tu peux avoir une vraie discussion et questionner, on va dire, le fonctionnement de la gestion, il n'empêche que finalement, t'as pas vraiment le choix, dans la plupart des cas, le choix final, en tout cas, dans la gestion de cette écurie. Et c'est là où la difficulté, quand tu viens de propriétaire à la maison, c'est que je pense pas, aujourd'hui, qu'il existe d'étapes intermédiaires. Alors, t'as des écuries qui proposent un petit peu des modèles où le propriétaire vient gérer son cheval et donc participe aux tâches, participe au ramassage des crottins, participe à faire les boxes, etc. Mais la plupart du temps, t'as pas trop de modèles intermédiaires. Donc souvent, tu passes du côté très coucouné, très entouré, où t'as en plus le gérant qui te conseille, qui est là, à d'un coup, tu te retrouves tout seul. Et c'est ça la difficulté, parce que t'es responsable, en fait, des choix que tu fais pour ton cheval. T'es responsable des conséquences, des avantages, de ce que tu testes ou pas. Et des fois, bah, tu te retrouves face à, OK, là, j'ai un souci. Et qu'est-ce que je fais? Comment je gère ça? Et c'est là, justement, où tu te dis, OK, je vais lire, je vais me documenter. Mais en réalité, une fois que j'ai acquis de la théorie, bah, il y a que la pratique qui montre que c'est vrai. Je fais juste un truc, parce que ça m'a fait rire quand tu parles de combien un cheval, justement, prend de temps pour ramasser son crottin. Je le mets juste comme ça, une petite info entre parenthèses. Moi, en tout cas, chez moi, c'est 1 brouette de crottin par jour. Donc, c'est quand même pas mal, une bonne brouette. Donc, ça veut dire qu'on est quand même sur 2 chevaux, je suis à 14 brouettes par semaine. On s'en rend pas forcément compte.
Non, mais on va en parler justement, parce que là, j'aimerais qu'on arrive concrètement sur quel mode d'hébergement et quelle gestion tu as mis en place au fur et à mesure des années. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as déjà un peu donné des indices, tu as 2 chevaux qui sont totalement différents. Tu as un cheval qui est ibérique, qui clairement, du coup, a, on va dire, une génétique de base qui fait qu'il grossit rien qu'en regardant un brin d'herbe.
Oui.
Et tu as un cheval français qui a plutôt grandi et habitué, du coup, à une herbe un peu trop riche, qui ont du coup des métabolismes tellement différents que les faire coexister, c'est pas facile. Et il y a aussi ça comme difficulté qu'on voit souvent pas pour les gestionnaires de pension qu'on critique avidement, mais c'est que dans un même prix, il va falloir gérer des affinités, il va falloir gérer des métabolismes différents et potentiellement des pathologies différentes. Parce que tu peux avoir deux chevaux qui s'entendent très bien, mais j'en sais rien, t'as un SME et un Lyme. D'un côté, t'as un cheval pareil qui grossit à vue d'œil si tu lui fais pas faire de mouvement. Et de l'autre, t'as un cheval qui va avoir tendance à creuser à vue d'œil son poids parce que sa pathologie fait qu'en général, il va plutôt être sur de l'apathie et donc sur de la perte de poids. C'est hyper difficile parce que du coup, c'est une gestion de l'espace, une gestion des ressources qui doit être individualisée sur, en fait, en général, un lieu commun. On s'en rend compte dans ton exemple. Tu le dis, moi, j'ai deux chevaux qui ont des besoins différents, donc j'ai dû adapter et évoluer le schéma de base que je m'étais mis en tête sur ma gestion. Et même dans ton cas, tu as d'abord eu un mode de gestion pour Ita qui était tout seul et puis que tu as dû transformer et réinterroger au moment où du coup Moon est arrivé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement, toi, je mets donc un disclaimer, ceci est le mode de gestion d'Apolline, ne le piquez pas, ne le copiez-collez pas, ça ne fonctionnera pas forcément. Mais justement, quand même, peux-tu nous dire qu'est-ce que tu as fait le plus rapidement évoluer? Quels ont été les aspects de base que tu as fait le plus rapidement évoluer dans ton expérience sur ce mode d'hébergement et cette gestion? Et où est-ce que tu as eu des difficultés et des facilités? Donc, par exemple, là, tu as parlé d'alimentation que tu as dû rapidement justement revoir. Donc, tu t'es rendu compte que le 1 hectare par cheval ne fonctionnait pas pour toi par rapport à ton terrain, par rapport à ce qu'il y avait de disponible sur ton terrain, qu'il a fallu donc devoir complémenter. Ça, par exemple, ça a été une difficulté facilement, entre guillemets, surmontable, parce que je suppose que tu as trouvé un agriculteur avec qui pouvoir discuter des fourrages. Mais est-ce qu'il y a d'autres sujets, par exemple, où ça a été vraiment d'autres types de difficultés? Je pense à la gestion des déchets, par exemple, ou l'approvisionnement en eau. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile, le plus facile, et qu'est-ce que tu as dû faire bouger pour que ça colle aussi, toi, à justement à ta gestion et au temps que tu pouvais y passer sans trop rogner sur les besoins de tes chevaux, qui sont différents en plus?
Moi, j'ai vraiment essayé de simplifier au maximum toute ma gestion pour y passer le moins de temps possible. Donc, ça fonctionne pour moi vraiment, c'est important de le dire, mais ça fonctionne aujourd'hui pour moi avec mon agenda, avec les ressources que j'ai. Vous pouvez tester. Moi, je vous encourage à tester ce que j'ai fait et à voir si ça fonctionne pour vous. Ça peut peut-être vous donner des idées. Aujourd'hui, mes chevaux sont donc dans 1 hectare. Ils ont une grande partie en prairie avec tout un chemin dans un sous-bois qui arrive complètement de l'autre côté de mon terrain avec une petite zone, on va dire, qui aujourd'hui est plutôt boueuse mais qui est plutôt sèche d'habitude. Pourquoi on a fait ce chemin? Parce que j'ai un voisin qui a la gentillesse vraiment de nous prêter 4000 mètres carrés de prairie et c'est collé à l'arrière de mon terrain. Donc j'ouvre l'accès vers l'arrière. Et donc, il me les prête vraiment gentiment tout l'été. Donc, j'en profite s'il passe par là, je le remercie. Je pense que ce qui est très important à prendre en compte, c'est les relations. Je parle de mon voisin là, mais comme tu disais, l'alimentation, c'est un gros point noir parce que c'est essentiel pour nos chevaux. Il faut trouver un agriculteur. Vraiment, j'ai une relation vraiment de qualité avec l'agriculteur que j'ai aujourd'hui. Il faut savoir que toutes les 2 semaines en hiver, j'attelle la remorque, je vais chez mon agri, il me pose une balle de foin dans la remorque, je repars et ensuite je la décharge à la main. Donc je pousse la balle de foin de 350 kilos jusque dans le pré. C'est du sport. Vous n'avez pas besoin de payer d'abonnement à la salle après ça. Donc ça, c'est aussi physiquement une conséquence. J'ai la chance d'avoir donc mon père qui m'aide dans la gestion et qui m'aide à pousser cette grosse balle de foin. Donc important de nourrir des bonnes relations en fait avec toutes les personnes clés et les ressources clés dont on va avoir besoin pour nos chevaux. Donc ils ont cet espace là. Aujourd'hui, pour la gestion de l'eau, on est majoritairement avec de l'eau de pluie. Donc, en fait, on a construit l'abri il y a maintenant 2 ans. On a fait toute une dalle en béton. On a monté l'abri dessus. Et donc, en fait, on a les bidons d'eau de pluie qui sont derrière l'abri. Donc, on profite, en fait, tout simplement de la toiture de l'abri pour récupérer l'eau. Cette année, on a de la chance. Il a beaucoup plu. Donc, mes chevaux sont à l'eau de pluie depuis octobre. L'hiver dernier, on n'a pas eu de bol, donc ils ont dû être à l'eau potable la majorité du temps. On n'a pas eu beaucoup de pluie. Donc ça va varier aussi selon une année à l'autre. Pour l'eau potable, on a tout simplement fait des travaux. On a fait une tranchée sur 100 mètres de 1,50 m de profondeur pour tout simplement rallier l'eau jusqu'à l'abri. Donc ça, c'est des travaux qu'on a fait nous-mêmes. Donc on a juste loué une pelleteuse. Et c'est juste qu'on a pris le temps, en fait, de les faire. Mais c'est vrai que ça a été des travaux assez conséquents aussi pour amener l'eau potable jusque là-bas. Ça a été un choix que j'ai fait parce que je n'en pouvais plus, en fait, de mettre 100 mètres de tuyaux d'arrosage pour réussir à remplir la baignoire d'eau. Donc, encore une fois, c'était une question vraiment d'automatisation. J'ai investi pour pouvoir simplifier tout ça. Donc ça, c'est vraiment la gestion de l'eau. La gestion du terrain, donc, c'est par roulement. Aujourd'hui, j'ai séparé ma parcelle en 3. Ils ont un peu un fonctionnement d'équipiste. Donc, en fait, ils ont toute une piste. Dans mes stories, souvent, vous les voyez galoper pour venir manger leur ration le matin. Ils ont toute une sorte de grande piste qui va jusqu'au sous-bois et donc qui longe la parcelle. Et après, c'est divisé en 3 parcelles différentes que je vais ouvrir à partir de, normalement, si on croise les doigts, avril. Parce que là, ils ont bien abîmé le terrain quand même cet hiver avec toute la pluie, la boue. Donc là, ben, pas d'herbe pour l'instant. Donc j'attends que ça pousse vraiment. Là, ils sont que au foin. Et donc, pour la gestion de l'alimentation, ce que je fais actuellement, c'est que je fais des filets. Ils ont été au foin à volonté pendant 2 mois. En novembre et décembre. Donc, je posais la balle, je mettais mon filet 4,5 au-dessus et donc, ils avaient accès libre. J'ai testé ça pendant 2 mois. Le souci, c'est comme tu le dis, bon, j'ai 8 tacs qui a pris énormément de poids. C'était plus possible. Même Moon a pris du poids, c'est pour dire. Parce qu'en fait, comme il y avait peu de mouvement créé parce que le foin était au même endroit, ils n'ont pas beaucoup bougé. Et donc, finalement, ils ont mangé sans qu'il y ait de mouvement derrière. Ça a été une période, en plus, moi, l'hiver, c'est toujours un peu difficile, donc c'est une période où souvent je les travaille moins. Donc ça, plus ça, fait que ils ont tous les deux été en embonpoint. Après ça, j'ai fait le choix, donc, de limiter l'accès au foin à la nuit. Donc j'ai mis un fil, j'ai ouvert l'une des parcelles pour qu'ils aient accès à l'herbe, et j'ai tout simplement mis un fil pour qu'ils aient accès au foin que la nuit. Donc j'ouvrais le soir et je refermais le matin. Bon, il faut savoir que Moon a le caractère d'un Shetland, donc elle passe à travers les fils, donc c'était juste pas possible de gérer ça. Ça a bien fait rire les gens dans mon canal Telegram quand j'ai partagé les textos de ma mère qui me disait « T'as donné accès au foin ?» Non, Moon y est quand même. Donc, elle passe à travers les fils. Donc, c'était compliqué aussi à gérer. Donc, j'ai fini par rationner complètement. Donc là, ils sont au filet à foin depuis 2 mois, depuis début janvier. Donc, ça veut dire que je fais tous les filets à foin. J'en accroche 2 le matin, 2 le soir. Je les remplis selon le poids. Donc là, ils sont tous les deux à 14 kilos de foin par jour. Donc, je pèse vraiment pour avoir des filets entre 7 à 8 kilos. Et je les accroche à différents endroits pour créer du mouvement tout au long des équipistes. Ce qui est vraiment important, ça c'est un point super important dans l'alimentation, c'est de toujours donner un accès à tous les chevaux. Donc, il faut qu'il y ait des points d'accès pour tous les chevaux. C'est-à-dire, si j'accroche mon filet à foin, il faut que je l'accroche par exemple à un arbre et que mes chevaux puissent être tout autour de l'arbre et y avoir accès. Ou sinon, mettre plusieurs filets à foin autant qu'il y a de chevaux. Ça c'est important parce qu'on a, comme tu le disais, des chevaux, je pense à Iggy dont tu disais elle avait pas forcément accès aux ressources. C'est important de pouvoir donner accès aux ressources à tous les chevaux et donc de créer un environnement qui leur permet en fait d'avoir accès à ces ressources-là. Donc moi je fais vraiment attention, j'ai des points spécifiques où j'accroche aux arbres, etc., où je mets le foin, et donc je prépare tous mes filets à foin. Donc ça c'est ma gestion d'aujourd'hui, avec tous mes points un petit peu, mon gros point noir aujourd'hui c'est quand même l'alimentation et la gestion du terrain, parce qu'avec la boue, on n'aime pas avoir nos chevaux dans la boue. Je conseille vraiment de mettre des peupliers. Les peupliers boivent beaucoup d'eau. Nous, on a de la chance d'avoir beaucoup de peupliers sur le terrain, ce qui fait que ça draine assez rapidement l'eau. Donc, on n'a pas de période avec beaucoup de boue. Bon, là, il a plu particulièrement, donc on en a un peu plus. Ça abîme les terrains, la boue. Et l'herbe a plus de mal à pousser. Donc, ça, c'est la grosse difficulté à laquelle je dois faire face. Ça a été une évolution. Et même là, tu vois, l'alimentation sur l'hiver, elle n'a pas été la même, en fait. Je l'ai changée 3 fois. Et elle va sûrement rechanger encore quand le printemps va arriver parce que je vais essayer de les passer à l'herbe dans les ressources que mon terrain va m'offrir. Donc c'est un petit peu ça à prendre en compte, c'est que finalement, c'est tout le temps en mouvement. J'ai commencé avec, comme je le disais, avec Itak qui était dans sa prairie de 8000 m² et sans rien dessus. Aujourd'hui, ils ont l'abri, j'essaye de créer des enrichissements, donc il y a des jeux avec des carottes dedans pour qu'ils puissent aussi faire autre chose de leur journée. Sur les chemins, j'ai rajouté des bûches, j'ai rajouté des cailloux pour créer différents sols pour mes chevaux. Donc en fait, c'est juste une question de faire progressivement et de pas vouloir faire l'idéal dès le début. C'est pas possible. ce que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas pu le créer il y a 2 ans. C'était juste pas possible. Je pense à la période, ne serait-ce où Itac a été en arrêt pendant 1 an. Ben, j'ai créé un mini paddock, en fait, au sein de mon pré. Parce qu'Itac devait pas se déplacer. Ah, donc, il était au box la nuit, dans mon abri. Et je le mettais, en fait, tout simplement, tout seul, dans son petit paddock, toute la journée, pour qu'il puisse quand même sortir un peu. J'ai fait ça avec des fils des poteaux éphémères. Ça s'adapte, ça se crée au fur et à mesure. Je pense qu'il faut, l'idée, c'est de noter un peu notre idéal, de se dire, OK, quel serait mon idéal de gestion pour mes chevaux? Et après, de se dire, comment je tends vers là? Qu'est-ce qu'il va falloir que je mette en place progressivement? J'ai rajouté des clôtures au fur et à mesure, j'ai rajouté des chemins au fur et à mesure. Les filets à foin aujourd'hui, j'ai rajouté plein de points de filets à foin. Voilà, c'est... On fait au fur et à mesure, on a notre idée parfaite, idéale, et on essaye de l'atteindre au jour le jour.
J'ai 2 dernières questions que j'aimerais qu'on voit rapidement ensemble et qui me semblent indispensables. La première est liée en fait au fait que toi, t'es enseignante, que tu travailles tes chevaux. À quel moment tu t'es décidée à aménager un espace réservé au travail? Et pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu t'es rendu compte que si t'avais pas un espace dédié, c'était difficile justement d'organiser en fait des séances ou pas? Ou est-ce que ça, c'était pour vraiment juste une question de confort? Et qu'est-ce que ça implique comme gestion d'avoir également un espace spécifique pour travailler? Parce que bon, quand on est en écurie ou en centre équestre, on voit bien que un manège ou même ne serait-ce qu'une carrière, ça se herse. Ça ne se fait pas tout seul. Donc, typiquement, pour moi, tout de suite, je me dis, si en plus il y a un espace de travail, il y a forcément des coûts supplémentaires et du temps supplémentaire aussi pour gérer cet espace de travail.
On a construit le rond de longe il y a maintenant 1 an et demi, si je me trompe pas. Nous, on l'a fait à la main. Donc, pareil, on l'a fait en DIY. Pour expliquer un peu rapidement le fonctionnement, tout simplement, de la construction du rond de longe, on a dû creuser un trou d'à peu près 80 cm de profondeur. On a dû faire une première couche avec 30 tonnes de gravier. Ensuite, on a mis tous nos drains. Et après, on a mis du géotextile et on a mis à peu près 40 tonnes de sable. Et là, on parle d'un rond de longe. Donc, on est sur quand même une petite surface de travail. Donc déjà, rien que ça, il faut savoir que c'est quand même des coûts qui sont très importants. Je pense pas que c'est obligatoire. Quand on a les chevaux à la maison, moi j'accompagne beaucoup de cavalières qui ont leurs chevaux à la maison et où on travaille dans le pré et elles essayent juste d'aménager une petite zone de travail. Je pense que le souci, la grosse difficulté, c'est le confort. C'est que quand on arrive en hiver, que les terrains sont boueux, on est vite limité. Je pense qu'il y a aussi cette idée de confort pour nos chevaux, de réussir à leur créer un espace qui est confortable et qui est associé au travail. C'est vrai que moi j'ai vu une différence avec mes chevaux, à partir du moment où il y a eu le rond de longe et que je les amenais là, et que, en fait, c'est un peu un switch. On est en séance travail et ça change quelque chose, en fait. Et puis, il y avait mon confort aussi, tout simplement. Il y avait le côté aussi, je vais accueillir du public. Donc, faire des démonstrations dans le pré, c'est pas toujours possible. Et puis, ça a abîmé encore une fois le sol et les terrains. Parce que quand tu fais 3-4 séances par semaine, par cheval, sur un sol qui est confronté aux mêmes difficultés que ton pré, le passage de tes chevaux, en plus, a des allures souvent beaucoup plus rapides, on travaille beaucoup au trot, au galop, ça vient forcément abîmer le terrain. Et donc, t'arrives à un moment où, en hiver, en tout cas, c'est plus forcément praticable de façon confortable. Donc, je pense qu'en réalité, la zone de travail, c'est surtout avant tout du confort. Aujourd'hui, je vais pas mentir, je suis quand même limitée dans le sens où, là, pour le débourrage de Moon, par exemple, je vais être obligée à un moment d'aller dans des carrières plus grandes parce que galoper dans le rond de longe, physiquement pour elle, c'est quand même difficile. Avec un cavalier sur le dos, n'en parlons même pas. Donc, je vais aborder d'abord les choses en extérieur, en balade, mais à un moment, je vais aller dans d'autres surfaces de travail pour en profiter et pour lui laisser plus d'espace. Mais aujourd'hui, oui, c'était essentiellement du confort. Maintenant, le travail que ça demande, moi, j'arrose pas mon sol. J'ai de la chance, on a mis vraiment des bons drains. Ça, c'était important. Encore une fois, je pense que quand je dis qu'il faut pas faire les choses en urgence, c'est qu'il faut vraiment les réfléchir pour se dire à long terme, combien de temps ça va me faire gagner, combien de temps et d'argent je vais gagner tout simplement dans l'histoire. Donc moi, j'ai pas arrosé mon rond de longe, à part en été de temps en temps. Il n'est jamais trempé, parce que même en hiver, il a beau pleuvoir, les drains fonctionnent super bien. Donc ça, c'est génial. Et je herse à peu près 1 à 2 fois par mois. Et ça me demande à peu près... Au départ, je voulais le faire avec mes chevaux, je voulais qu'Itac tracte la herse. Bon, finalement, je me retrouve à le faire moi-même. Donc c'est du sport, encore une fois. Et je me retrouve à faire ça, ça dure à peu près 1 heure, on va dire, quand je le fais. Entre 30 minutes et 1 heure. Et je désherbe 1 fois par mois aussi, pour pas me laisser envahir. c'est toujours cette question-là de se dire, je vais pas dire, je suis la reine de la procrastination et de dire, je fais ça demain. C'est à chaque fois de se dire, si je fais un petit peu maintenant, si je fais un petit peu tous les mois, ben en fait, ça m'épargne, on va dire, toute une journée de désherbage quand j'arrive en juin, juillet. Donc voilà, si on fait ça régulièrement, qu'on se crée des routines, ça va plutôt vite. Et aujourd'hui, j'ai, on va dire, 1 heure et demie par mois d'entretien du rond-longe.
Il y a un dernier aspect qui est l'aspect financier dont j'aimerais qu'on traite. Tu m'as fait une parfaite transition parce que tu m'as dit, bon bah voilà, créer un espace de travail, c'est plus de frais, c'est plus de temps, c'est plus de frais aussi. J'ai l'impression, j'ai le sentiment que c'est un peu une fausse croyance de penser que ça va être moins coûteux d'avoir son cheval à la maison. Est-ce que toi, c'est un peu indiscret, mais est-ce que tu suis tes dépenses? Et sans nous partager de chiffres, est-ce que tu as l'impression d'avoir fait des... Alors, c'est compliqué parce que maintenant, tu as 2 chevaux. Mais on va dire, sur les premières années où tu avais Itac, est-ce que tu t'es dit, ah ouais, en fait, super gain financier?
Je vais pouvoir donner des fourchettes parce que je pense que ça va dépendre également, en fait, de où on se situe. Je pense que le foin dans le sud ne coûte pas autant que le foin dans le nord, par exemple. Enfin, il y a des variations dans les prix. C'est un grand mythe. Je suis désolée, fin de podcast. C'est pas pour plomber l'ambiance.
J'en étais sûre. Je pense que c'est une énorme fausse croyance de se dire, tiens, j'ai 5000 m² de terrain, je vais mettre mon cheval à la maison et je vais faire des super économies. Clairement, on fait pas d'économies de temps ni d'énergie, ça c'est une certitude. Mais je pense que même des économies budgétaires, c'est se mettre un doigt dans l'œil, en fait.
Ben, en fait, c'est un peu l'idéal. Ça dépend, en fait, de comment tu gères les choses. Effectivement, si tu mets 4 piquets, que tu mets ton cheval dans les 5000 m² et que tu lui mets une balle de foin de temps en temps, oui, ça va sûrement te coûter moins cher. Sans aucun doute. Maintenant, tu as plusieurs frais en fait qui rentrent en jeu et qui font que c'est pas forcément, je dirais pas que c'est moins coûteux. Ça va l'être par cheval et je pense que plus tu as de chevaux, moins c'est coûteux de les avoir à la maison. Mais en fait, ça va te coûter dans d'autres choses. Si on prend déjà les dépenses mensuelles, moi j'ai à peu près entre 100 et 150 euros pour le foin qui passe tous les mois pour 2 chevaux. Donc on est à peu près autour de 70 euros par cheval pour le foin. Donc pour la gestion de l'eau, vu qu'ils sont à l'eau de pluie, allez, on va dire que j'ai besoin d'eau potable entre 4 à 6 mois par an, je vais être à peu près à 20 euros par cheval, on va dire, pour les frais de l'eau. Il y a aussi la partie des rations. Alors moi, ils sont très complémentés parce que je les suis beaucoup au niveau des prises de sang avec ma véto. Je fais vraiment des rations sur mesure par rapport à leurs besoins. Et donc, dans ce cas-là, je suis à peu près à 50 euros, on va dire, de frais, de rations par cheval mensuellement. Donc, quand on regarde comme ça, on se dit oui, quand même, ça coûte bien moins cher finalement d'avoir ses chevaux à la maison. Ça a l'air plus avantageux et je pense que pour 2 chevaux, effectivement, aujourd'hui, c'est plus avantageux pour moi au niveau de l'argent. Mais il faut pas oublier en fait qu'il y a tout plein d'aménagements à amortir, en fait, sur le long terme. Moi, j'ai mis à peu près 3000 euros dans les clôtures, dans les aménagements, dans les espaces de vie. J'ai mis environ 10 000 euros pour construire mon rond-longe. Donc, ça me fait quand même déjà 13 000 euros, finalement, à amortir. Et je prends pas en compte tous les autres petits aménagements que j'ai mis en place. Et donc, moi, j'ai calculé rapidement, mais si on prend sur le fait que mes chevaux, ça fait 2 ans et demi qu'ils sont à la maison, ça veut dire qu'actuellement, tous les mois, j'ai 435 euros qui sont amortis sur le long terme, sur ces 13 000 euros. Alors, plus ils sont longtemps à la maison, bah finalement, moins j'aurai à amortir. Bon, il y a toujours d'autres coûts hein, qui viennent en place, mais moins j'aurai à amortir. Donc, sur le long terme, oui, c'est moins coûteux. Donc, il y a déjà toute cette partie sur les dépenses. Donc, finalement, on se rend compte que oui, c'est un mythe de se dire qu'avoir ses chevaux à la maison, ça nous coûte moins d'argent. Les dépenses mensuelles, oui, sont moins coûteuses, mais on a ces dépenses générales qu'il faut prendre en compte. Et après, il y a ce qui nous coûte en énergie. C'est que tout l'argent qu'on met pas dans la pension, qu'on donne pas au gérant d'une pension, parce qu'on rémunère pas son temps à lui. Donc, ça veut dire que c'est du temps qu'on va devoir mettre, nous. C'est un temps qu'on mettra pas dans autre chose, qu'on mettra dans nos chevaux, dans notre gestion, qui peut parfois être fatigant. Je pense à l'hiver où c'est une période qui est toujours difficile. En tout cas, moi, personnellement, c'est difficile. C'est un temps que je mets là-dedans. Donc, c'est coûteux différemment. Ça coûte au niveau du temps, ça coûte au niveau des opportunités. C'est-à-dire que y a des soirs où on vous demandera d'aller boire un verre avec les copains, mais il faudra aller s'occuper de ramasser les crottins. Et donc, dans ce cas-là, on dit non, peut-être une prochaine fois. Voilà, c'est juste prendre en compte l'équilibre entre qu'est-ce qui nous coûte financièrement, qu'est-ce qui va nous coûter en temps, et finalement, est-ce que je préfère mettre 150 euros de plus dans la pension par mois, mais gagner du temps, et donc pas changer mon budget temps de propriétaire. Mais c'est juste un choix. Je pense que c'est vraiment le choix de quel coût énergétique et quel coût financier je mets en place.
Merci beaucoup Apolline, je trouve ça super clair et super intéressant. Effectivement, oui, il y a un amortissement, mais à un moment donné, il y aura toujours des investissements à faire, quoi qu'il en soit, parce que on peut avoir une machine qui tombe en panne, on peut avoir un abri, par exemple, avec une tempête qu'il faut remplacer. Donc, c'est finalement en fait une gestion du quotidien qui va nous permettre de voir si c'est un vrai gain sur le long terme ou pas. Merci beaucoup pour ton témoignage super enrichissant. Je crois que tu as un dernier conseil que tu voudrais donner aux futurs propriétaires à la maison. Je te laisse du coup le donner.
Je pense que juste ce qui est vraiment essentiel à faire avant de se lancer dans cette merveilleuse aventure, c'est de se poser les bonnes questions et surtout la bonne question de pourquoi je veux avoir mes chevaux à la maison. Et il faut que ce soit une raison positive. Ça doit pas être parce que j'aime pas la pension dans laquelle il est, parce que c'est trop loin. Non, il faut vraiment se dire, ok, si je veux avoir mes chevaux à la maison, il faut que ce soit une raison positive. Il faut que ce soit parce que ça va m'apporter ça, parce que je veux pouvoir apporter ça à mon cheval. Parce qu'à partir du moment où c'est une raison positive, c'est vraiment là qu'on va avoir la motivation quotidienne et sur le long terme pour vraiment s'investir auprès de nos chevaux pour leur apporter la meilleure vie possible. Merci beaucoup Fanny, en tout cas, de m'avoir accueillie dans ce podcast. J'ai été ravie de discuter de ce sujet avec toi. S'il y a d'autres questions, de toute façon, tes auditeurs peuvent absolument venir m'envoyer un message sur Instagram. Je suis toujours ravie d'échanger sur ce sujet. Et puis, toi et moi, on reste en contact pour discuter de nos projets.
Exactement, je remettrai bien évidemment le lien vers tes réseaux sociaux. Merci beaucoup Apolline.
Au revoir Fanny, encore merci.
Et voilà, c'est la fin de mon échange avec Apolline. J'espère que cette plongée à ses côtés, dans le quotidien d'un propriétaire à la maison qui doit partager son fameux budget temps entre ses chevaux, la gestion de ses chevaux, la gestion de la pâture, la gestion de l'environnement et sa vie privée, sa vie professionnelle, sa vie sociale, te permet déjà de prendre du recul pour te demander si c'est fait ou pas pour toi. À ce sujet, je t'ai parlé en intro d'un épisode qui aurait dû sortir cette semaine et qui a planté pendant l'enregistrement. Et j'ai donc le grand bonheur maintenant de t'annoncer que la semaine prochaine, je vais t'aider à faire ce tri dans ta tête. Le sujet de l'épisode sera de se poser sincèrement la question de si c'est une bonne ou une mauvaise idée d'être propriétaire à la maison pour toi. Et pour ce faire, je vais te partager 10 questions auxquelles il faudra que tu répondes en toute honnêteté pour t'aider à faire un choix. A priori, si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast t'a plu. Et je tenais énormément à te remercier de ton temps à mes côtés. Si tu as particulièrement apprécié cet épisode, tu peux me laisser un commentaire pour me dire ce qui t'a le plus marqué ou alors le partager sur tes propres réseaux sociaux pour permettre à ce podcast d'aider d'autres personnes comme toi. Le journal d'Iggy, c'est aussi une newsletter. Donc, si tu souhaites avoir une fois par mois, directement dans ta boîte mail, les dessous du podcast, mes tips, de la curation de contenu supplémentaire, tu peux te rendre sur iggyjournal.com et t'inscrire. Enfin, si tu es curieuse et que tu souhaites suivre le quotidien d'Iggy et moi ou ne louper aucune des promos qui concernent tous les différents événements que je propose, tu peux nous rejoindre et nous suivre sur Instagram ou TikTok @iggy.journal. Merci beaucoup de ton écoute, à très vite.